Alors, ce matin, on va continuer un petit peu sur la pensée qui a été donnée pendant ce jeûne et prière. Pourquoi? Parce que on ne peut pas juste passer une semaine comme ça et dire on passe à autre chose et la vie continue. Il faut qu'on puisse prendre le temps de digérer un peu ce qu'on a reçu nous personnellement en tant qu'Église et pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors juste pour titre informatif pour ma part, pour savoir un peu là où je vais aller, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent, vous allez me faire des signes pour les personnes qui sont au moins venues une fois dans la semaine à l'intercession, à la prière? Ouais, donc on est une bonne grosse partie est venue. D'accord, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient au courant, qui ne pouvaient pas être là pour X ou Y raison, mais qui ont participé aussi? D'accord, magnifique. D'accord, je ne vous oublie pas. Est-ce que vous avez senti une différence dans votre semaine? Parce que vous avez le corps de Christ, même si on a la tête dans les nuages, eh ben, prends-toi le bout du pied dans une palette, tu vas vite redescendre sur terre. D'accord? Ça veut dire que le corps de Christ, le Saint-Esprit, il agit en Wi-Fi. Même si tu n'es pas là, il te parle. Quand l'Église se met à prier, il y a une puissance. Ça va? Ok, je vais me mettre là parce que comme ça, je vois Élise. Moi, je suis content qu'il y ait Élise et Claude, et sinon, j'ai un poteau et je ne les vois pas. Donc voilà. Alors, ce qui a été partagé ce matin, donc ce matin, ça ne va pas forcément être une prédication au sens prédication du terme, mais plus nous rappeler des vérités et des choses qui sont pour nous les bases de notre foi et qu'on a vraiment essayé de remuer durant cette semaine de jeûne et prière. Et l'objectif, c'est de les sceller dans nos cœurs. Ça roule? Alors ce matin, j'étais encouragé parce que le premier point que je voulais aborder, c'est le point de la grâce. Et Sandy, elle termine en disant, ben voilà, ce matin, c'est la grâce. Donc c'est vrai, c'est la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Et on va tout de suite lire ce verset dans Romains 10, verset 17. Qu'est-ce que je dis? Éphésiens 2, verset 8, pardon. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça, c'est le premier point clé, c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc tu peux le laisser, Pierre. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est l'idée que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui décide un jour de s'approcher de l'homme, de s'approcher de toi, de s'approcher de moi. C'est ce sens, au début, c'est un sens unique. C'est Dieu qui vient pour nous toucher. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et ce n'est pas nous qui allons vers lui. C'est ça la grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la foi en son Fils qui a donné sa vie pour nous. Tout simplement. C'est lui qui a donné sa vie pour lui. Et par la foi en Jésus-Christ, maintenant, on reçoit quoi? La possibilité d'aller vers Dieu. Mais sans ça, eh ben finalement, tout n'est que religieux, tout n'est que, voilà, on lance des choses en l'air et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais la grâce, c'est voilà, j'ai envoyé mon Fils, tu crois par la foi en Jésus-Christ à mon Fils et maintenant tu as accès à moi, Dieu le Père. Ça, c'est une des bases de notre foi et c'est ce qu'on a réaffirmé durant toute cette semaine. Ça a été une semaine où on ne s'est pas juste. On n'a pas juste invoqué Dieu en lui demandant plein de choses, en déclarant des grandes promesses. On l'a fait, mais la majorité du temps, on était dans une attitude d'humilité devant Dieu. On était dans une attitude où on s'est remis à notre place, en fait, où tu es le Dieu créateur. Je suis la créature et je viens m'humilier devant toi. Humilier dans le sens, je me rabaisse pour que ta gloire descende sur ma vie, dans ma famille, dans mon entourage. Ça va? C'était l'objectif de cette semaine. Donc la grâce de Dieu à retenir, c'est Dieu qui s'approche de nous et qui nous sauve par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc si tu penses que tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens, parce que tu as eu une éducation chrétienne, parce que peu importe, et bien tout ça, ce n'est pas important. Déjà être chrétien, ça veut tout et rien dire. Mais ce qui est important, c'est est-ce que tu as la foi? Parce que si tu as la foi, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don. Ça ne vient pas de toi. Et vous vous souvenez, il y a 4 semaines, je vous avais mis ce cadeau au milieu et je vous avais dit, c'est Dieu qui nous fait un cadeau et puis c'est à toi de le prendre. C'est-à-dire que tu le vois, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir aller regarder s'il est grand, s'il est petit. Et bien ça, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus. Il y a un gros cadeau qui a été mis là et il dit maintenant, est-ce que tu crois? C'est par la foi en Christ. Tu peux le connaître, savoir qui il est, connaître son histoire, mais si tu ne crois pas en lui, en ce qu'il a fait, tu n'as pas accès à quoi? À la grâce de Dieu pour le pardon, le salut de tes péchés. C'est là le fondement de notre foi. Donc il faut te poser la question, est-ce que ma foi est celle qui vient du Dieu le Père? Ou est-ce que c'est juste une foi intellectuelle, un héritage, et puis un truc qui est sympa, le dimanche matin, je vais à un concert? Vous voyez l'idée? L'objectif, c'est de savoir est-ce que j'ai dans, ce, qu'il y a dans, ce qui boue dans mon cœur, ça vient de Dieu le Père. Ça roule? Vous me suivez? Donc ça, c'est une des choses sur laquelle qu'on a appuyé cette semaine. Alors, on va aller voir encore un verset, Actes 17, versets 25 à 27, s'il vous plaît. Donc, on parle de Dieu. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. Donc, on reste sur celui-là, Pierre. Donc, moi, ce qui m'a impacté cette semaine, c'est qu'à nouveau, on a cette grâce, on a ce cadeau. Dieu a tout donné et maintenant, il dit, c'est à toi de me chercher. Je me révèle à toi, mais quelque part, maintenant, moi, je me suis adressé à toi maintenant de me chercher. Je suis à côté de toi, mais j'ai besoin que tu me cherches, j'ai besoin que tu me trouves. Et c'est ce qu'on a fait cette semaine en étant dans l'attente. Seigneur, je suis dans l'attente, là, je ne suis pas dans l'action. Je me remémore un peu ce que tu as fait pour moi, ce qui est réel dans ma vie, et je m'attends à ce qu'il y ait une révélation nouvelle. Et là, il y a une question de révélation. C'est que finalement, il y a une relation entre les enfants et les parents qui est forte. Mes enfants, ils peuvent, ne serait-ce que pas en voyant mon regard, ils peuvent savoir ce que je pense. D'accord? Vous avez tous des relations assez fortes comme ça, que ce soit un cousin, un parent, une amitié forte, où vous savez ce que la personne pense, elle n'a pas encore énuméré, elle n'a pas encore parlé, elle n'a pas encore posé des mots, que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer. Est-ce que c'est juste? Et un parent avec un enfant, c'est comme ça. Mes enfants, ils le sentent quand je suis fâché. Si je ne parle pas encore, ils sentent que là, quand je suis content, ils le sentent. Ils commencent à s'exciter. Oui. Donc je me calme un peu pour qu'on se canalise en tant que parent. Et c'est cette question de la révélation. Et la révélation, la parole de Dieu nous dit aussi, on a beaucoup parlé de la parole qui nous est révélée, c'est la parole, eh bien, la Bible nous dit que eh bien, finalement, la parole, elle peut tout autant être source de vie pour nous, mais elle peut tuer. On dit que la lettre tue. Et vous vous souvenez aussi de ce que la femme de Michel Allard avait dit. Elle avait dit, il est nécessaire d'avoir la révélation. Parce que si tu n'as pas la révélation du cœur de ton père, si tu n'as pas cette proximité, en fait, tu peux tout interpréter. Tu peux tout interpréter en disant, bah, en fait, Dieu dit ça, donc si ce qu'il dit, c'est ça, bah, je vais agir comme ça. Mais si tu ne connais pas les profondeurs des intentions de son cœur pour une situation donnée, en fait, tu passes à côté de ce que Dieu désire pour toi. Et dans le verset précédent, il est dit que, eh bien, tu peux remettre le verset juste avant, Pierre. Il fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. C'est-à-dire que Dieu a tout déterminé, les limites, la grandeur des choses, même dans ton propre cœur. Il connaît tes limites, il connaît tes attentes, il sait jusqu'où tu peux aller. Et en fait, toi, tu as besoin d'avoir cette révélation du cœur du Père pour pouvoir entrer pleinement dans ton identité. Est-ce que c'est juste ou pas? Et la question, c'est de se dire, ben, je ne veux pas juste suivre et puis brasser toutes sortes de concepts bibliques. Alors, le mariage, c'est ça. Le baptême, c'est ça. La Sainte-Cène, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est ça. Vous pouvez sortir tous les thèmes théologiques qu'on a dans la Bible et les mettre dans une case dans votre tête. Et en fait, il n'y a pas de vie. Parce que ce qui est important, c'est de connaître l'intention du cœur de Dieu dans ces choses-là. Et Seigneur, maintenant, je connais ton intention. Voilà, je connais cette vérité. La Bible nous dit que la vérité nous affranchira. On peut lire la même vérité noire sur blanc, et pourtant, un est libre et l'autre non. D'accord ? Mais cette vérité révélée de la part du Fils de Dieu, à ce moment-là, ça produit en toi quelque chose où tu dis, Seigneur, je crois ça, mais là, j'ai compris l'intention de ton cœur, il faut que je me réajuste, il faut que je me réaligne. Parce que si je ne me réaligne pas, je passe à côté. La révélation du cœur du Père. Et ça, ce n'est pas compliqué. Vous savez, on avait l'objectif de cette semaine, c'était d'être dans la simplicité et l'authenticité. Ça veut dire que tout ça, ce n'est pas compliqué. Oui, c'est des grands mots. Mais c'est de venir avec un cœur simple devant Dieu. Seigneur, il y a tout ça qui tourne dans ma tête. Peut-être que tu peux être quelqu'un qui raisonne, qui analyse tout, qui mesure, qui pèse, et puis qui prend tes décisions en fonction de ça. Bah, cette semaine, c'était le temps de dire, Seigneur, voilà, je fonctionne comme ça, mais je dépose ça devant toi pour que tu travailles mon cœur, que ton esprit vive en moi, et viens changer mes pensées. Viens changer parfois mes façons de faire, parce que c'est issu d'une vérité qui est biaisée. Ceux qui sont très émotionnels, Seigneur, je prends tout par les émotions. C'était le moment de dire, Seigneur, tu vois, je suis émotionnel, je vais déposer ça. Et toi, quelle est l'intention de ton cœur pour ma vie? Comment veux-tu que je sois, en fait? Viens recalibrer ma vie. Si tu es quelqu'un qui est très volontaire, il faut que tu fasses, et il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu constamment, et bien cette semaine, il n'y avait rien à faire, en fait. C'était venir au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, ben, je suis disponible maintenant. J'ai été longtemps indisponible, maintenant je veux être disponible pour toi. Et on se recentre. On a chanté des chants comme « Je m'abandonne, j'abandonne à nouveau ma vie, je recalibre les choses parce que je ne veux pas perdre de temps. » Est-ce que quelqu'un veut perdre du temps ici? Moi, je ne veux pas perdre de temps avec Jésus. Ça roule? Alors, il y a toutes sortes de façons après de recevoir ça, mais ça, c'est dans la simplicité. D'ouvrir son cœur comme t'es et dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi. De la manière dont tu désires me parler, je me rends disponible. Ça roule? Alors, est-ce que des gens se sont rendus disponibles cette semaine dans la prière? Ouais, faites-moi un signe, j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'on a vécu des choses? Est-ce que des... Faut pas lever la main pour rien maintenant, donc on la baisse. Est-ce que des personnes se sont rendues disponibles à Dieu et Dieu a changé quelque chose en eux, une conception? Une idée, une façon de vivre, peu importe, des vérités qu'il y avait en vous qui ont été déracinées pour mettre une réalité bien plus profonde de Dieu. Est-ce que ça s'est passé cette semaine? Oui? Oui? Personne d'autre? Oui? Et maintenant, je vais poser une question encore plus claire. Est-ce que toi qui as levé ta main cette semaine durant l'intercession, donc je parle bien cette semaine, est-ce que tu serais prêt à témoigner de ce qui s'est passé dans ta vie pour que les autres entendent? Alors, le but, ce n'est pas de témoigner pour témoigner parce que tu as envie de parler, mais c'est témoigner, je l'ai dit vendredi, parce que tu sens que le Saint-Esprit veut que tu le dises pour encourager quelqu'un d'autre. Si oui, c'est maintenant. Et on me fait un signe tout de suite. Sandy, c'est bon? Ouais. Qui d'autre? Pascaline, je m'arrête là parce qu'on va faire ça plusieurs fois dans la matinée. Alors, vas-y, Sandy. Et ensuite, Pascaline. Alors, par rapport à cette semaine. Hein.
Oui, alors j'ai commencé la semaine avec un pendu. Un de mes neveux est très malade. Et donc, je savais que pendant cette semaine, je devais beaucoup prier pour lui. Il a des graves soucis de santé. Et j'avais un fardeau. Et en fait, parfois on a un fardeau, on ne sait pas si c'est Dieu qui a donné le fardeau ou c'est juste parce qu'on est inquiet. Pour une raison. Et pendant, c'était le mardi soir, et j'avais beaucoup prié. Honnêtement, j'étais un peu dans mon truc à moi pour la première partie de la réunion. On avait 1h30 à peu près, et j'ai loué, mais le fardeau dans mon cœur, c'était ça. J'avais beaucoup prié pour mon neveu. Et le fardeau ne s'était pas dégagé. C'était toujours là. Et puis, vers la fin de la soirée, Josine a pris le micro à un moment donné et elle a dit c'est bien compris pour les enfants malades dans nos familles. Et j'ai dit, tiens, c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un dans une réunion d'intercession dire ça. Donc, ça, je prends ça pour moi. Et pour moi, c'est une confirmation qu'en fait, le fardeau que je portais, c'était un fardeau qui venait de Dieu. Et donc, c'était bien que je prie comme ça. Ce n'était pas simplement parce que je m'inquiétais, mais Dieu me disait, prie. Prie pour ton neveu parce que je suis à l'écoute. C'est moi qui donne le fardeau. Et donc, donne de toi-même pour prier pour ton neveu. Moi, j'ai entendu. Moi, je t'encourage. Fonce. Et donc, pour moi, c'est une autre manière de comprendre les fardeaux que Dieu peut donner. Pour moi, c'est une révélation parce que, tu sais, parfois, je ne sais pas si je prie simplement parce que je m'inquiète pour quelque chose ou si c'est vraiment Dieu qui est en train de dire, prie pour ça parce que je suis là et j'écoute. Donc, pour moi, j'ai appris quelque chose de Dieu cette semaine.
Alors moi, c'est complètement différent. Je n'ai pas prié pour quelqu'un. Je suis venue pour me mettre disponible devant Dieu, un peu dans l'esprit de ce que Alexis vient de partager. Et mardi soir, dans les chants inspirés, à un moment, on devait dire, Frédéric avait encouragé à dire « Je t'aime, Seigneur, je suis là pour toi ». Enfin, c'était « je » vis-à-vis d'une reconnaissance et d'une disponibilité de cœur. Et à un moment donné, j'ai dit « Je t'entends ». C'était Dieu qui me disait, pas audiblement, hein, mais qui me disait « je t'entends ». Et entendre quelqu'un, ça ne veut pas simplement dire « je t'écoute ». Vous pouvez parfois écouter plein de choses autour de vous, mais ne pas les entendre. Et donc il m'a simplement dit, et moi ce n'était que le seul mot que j'ai reçu cette semaine, l'unique mot « je t'entends ». Mais de par le « je t'entends », j'ai pu voir se découler le début de réponse à des choses que je lui demandais. Donc voilà, c'était le seul mot qui allait dans l'encouragement pour que vous vous attendiez à Dieu, pas simplement qu'il vous écoute. Parce que moi, on peut écouter tout le monde, hein, mais entendre peu de personnes et peu de choses.
Amen. Alors, vous voyez, Dieu parle, il nous révèle des choses personnelles. Ben, ça, c'est déjà la gloire de Dieu pour nos vies. Alors pour certains, ça peut sembler bon, mais pour Sandy, c'est important d'avoir entendu ça. Pour Pascaline, c'est important, parce que Dieu devait lui parler comme ça. D'accord ? C'est important de chacun connaître son Dieu et savoir comment il nous parle. Hébreux 11, verset 1 à 6. On a vu que la foi, par le moyen de la foi, vous êtes sauvés. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est le verset préféré de Fred, hein, donc je te l'ai pris, spécial dédicace. Non, mais c'est un verset très important. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux venir à toutes les soirées de prière et avoir une attente. Seigneur, touche-moi, transforme-moi. Mais si ta foi, elle n'est pas réelle, basée sur le Dieu vivant, il ne se passera rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la foi qui fait que... La foi, c'est le point de contact entre toi, Dieu et moi. Et depuis tous les temps, avant l'ancienne alliance, on voit Enoch, Caïn, voilà, c'était bien avant la loi de Moïse, bien avant toutes ces choses, bien avant la nouvelle alliance, ça a toujours été la foi. Ça roule ? Alors, la foi, on a dit don de Dieu. Alors, par la foi, moi, j'aimerais savoir qui cette semaine... alors, comment expliquer ça de manière claire ? Est comprise de tous, qui cette semaine, durant ces temps d'attente, s'est rendu compte finalement que sa foi avait besoin d'un peu plus de vie, quelque part une vraie foi et puis s'est senti encouragé dans sa foi et a vécu quelque chose de particulier par rapport à la foi. On me fait un signe, personne, s'il n'y a personne, c'est la suite. Non ! Aucune foi encouragée cette semaine ? Bon, c'est pas grave. Oh, Josine, toi... Et Josine, je t'ai oublié, tu devais parler ? C'est pas grave ? Ben après... Donc, la foi, une chose. J'aimerais qu'on revienne sur la foi, le premier verset. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur la ferme assurance, je vais m'arrêter sur l'espérance. Qu'est-ce que tu espères ? Si tu vis ta vie, et puis c'est les habitudes, le quotidien, et que tu n'espères rien en Dieu, bah, tu n'attends pas à ce que ta foi soit vivante et qu'elle produise un fruit. Si tu n'as pas une espérance de voir davantage de Dieu, de voir des réalités spirituelles davantage s'établir dans ta vie, eh bah, tu n'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. La clé, c'est d'espérer en quelque chose. N'espère pas juste en une belle voiture, une belle maison, un couple. Voilà, il faut espérer des choses qui vont dans l'intention du cœur de Dieu pour qu'elles se réalisent. On a dit que c'est le cœur de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu, être dans cette proximité qui va faire que, eh ben voilà, avec notre foi, on a le point de contact entre lui et moi. C'est-à-dire que dans ces moments d'attente, Dieu a peut-être déposé quelque chose dans ton cœur, et maintenant il faut pouvoir dire, Seigneur, je veux espérer en soi, en ça, que ce ne soit pas une espérance juste humaine, intellectuelle, j'espère en une vie meilleure, mais Seigneur, j'espère en ces choses spirituelles pour que maintenant, tu les établisses dans ma vie. Et est-ce que vous espérez à quelque chose davantage ? Parce que j'aime bien cette... Or, la foi, c'est l'assurance des choses. Mais dans les choses, on peut tout mettre. Mais la réalité, c'est les choses qui viennent de Dieu. Les choses qui sont dans le territoire que Dieu t'a établi pour ta vie. Dans l'identité de ta vie, de dire, bah, je ne connais pas la foi. On dit qu'on vit aveugle par la foi. On ne sait pas, en fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. On connaît ce qu'on a vécu, nos expériences, mais on ne sait pas vraiment le territoire que Dieu nous donne spirituellement, là où on va œuvrer. Donc c'est de dire, Seigneur, par la foi j'avance, tu me révèles petit à petit, j'espère en ces choses, et maintenant elles s'établissent. Comprenez ou pas ?
Ouais.
Vous me suivez ? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et finalement, sans cette façon de fonctionner, bah, comment veux-tu être agréable à Dieu ? Parce que tu vis ta vie, c'est les habitudes, tu viens au culte le dimanche, tu fais ta petite prière, mais Dieu, il ne peut pas se révéler à toi. Tu n'es pas disponible, en fait. Tu n'es pas disponible à ce qu'il puisse te donner une nouvelle part, en fait. Il puisse te parler, te faire grandir, te faire maturer. Et la Bible nous dit, il faut que vous soyez à l'état d'homme fait, des gens spirituellement accomplis, où tu vas comprendre ce que Dieu veut te dire, tu vas le mettre en pratique. Et Seigneur, maintenant j'ai la foi, je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, mais j'y vais. Parce que je sais que c'est toi et je suis convaincu, tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon cœur et je ne veux pas l'oublier. Et ça t'évite beaucoup d'erreurs. Moi, avec Chanel, on a été... notre vie chrétienne s'est basée vraiment sur une foi forte. Et quand on s'est rencontrés, on a fait beaucoup de pas de foi. Alors, elle travaillait, elle avait un bon poste. Et puis, c'était bien, machin. Et Chanel, elle s'est convertie. Elle s'est convertie, elle avait une foi, moi je me suis dit c'est qui celle-là, elle m'a bousculé dans ma propre foi, je me suis dit moi je suis un bon fils de pasteur, ma foi elle est bien posée, bien tranquille, elle est touchée par Dieu, mais regarde ce feu, ce qu'elle fait, et je peux dire que sa foi a réveillé la mienne. Moi, si je devais parler de ma conversion, un jour, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, il faut que tu me touches ». J'ai prié dans ma chambre, j'ai prié pour la femme de ma vie. Et puis un jour, elle est arrivée, elle s'est convertie. Et c'est sa foi, elle, c'était comme une braise qui m'a dit « Mais en fait, tout ce qu'elle vit, c'est vrai. Et toi, tu ne le vis pas. Donc, il faudrait peut-être que tu t'y mettes. » Et puis, on a commencé à vivre comme ça, par la foi dans tout, dans les choses pratiques. Et la première chose, ça a été le travail. Elle avait un bon poste en banque. Et elle n'était pas à l'aise. Elle me dit, ça ne va pas, je ne suis pas bien, c'est difficile. Pas dans le travail, mais elle ne se sentait plus bien, vous voyez, entre sa foi, ce qu'elle vivait. Et puis, elle était bien, tout allait bien. Et puis, j'étais au téléphone, et là, le Saint-Esprit me saisit et me dit, et là, je lui dis, Chanel, quitte ton travail, là, on va vivre par la foi. J'avais 19 ans. J'allais me marier. Et je dis à ma future femme de quitter son travail. Mais c'est par la foi. Mes parents, ils se sont dit, mais il est complètement fou. Chanel, elle débarque chez elle, elle dit, j'ai arrêté mon boulot. Mais par cette foi, ça a grandi parce qu'il y avait une conviction de foi. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Parce que Dieu, il veut que tu vives par la foi, pas par les raisonnements humains. Et alors, elle a vécu ça, et puis là, on a vu la gloire de Dieu. Elle n'a même pas pu se reposer 2 mois qu'elle a trouvé un nouveau job. Et ensuite, le Seigneur lui dit, tu vas rester là le temps, juste le temps où tu auras parlé à tout le monde de moi. Elle a été un témoignage, et au bout d'un an, elle dit, bah, moi j'arrête. Je vais être mère au foyer. Et tout le monde avait entendu parler de Jésus. Mais vous voyez, et ça a été que la foi comme ça, dans les finances, dans toutes ces choses-là. Tout ça pour vous dire qu'on a appris à vivre comme ça par la foi. Et à un moment donné, ces derniers temps, j'ai commencé un petit peu à m'endormir au niveau de la foi. Je me suis dit, Seigneur, finalement, tout va bien. J'ai pas besoin de la foi en ce moment. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Il n'y a pas de gros défis dans ma vie. J'ai passé déjà pas mal de défis, pas mal d'épreuves, pas mal de problèmes. Même si je suis jeune, j'ai vécu, je sais ce que c'est la foi. Maintenant, c'est bon, tranquille. Mais je me suis un peu endormi. Vous voyez, un petit peu, tranquillement, endormi, machin. Et j'ai commencé à prendre des décisions qui ne me ressemblaient pas. C'est-à-dire des décisions où c'était moi qui prenais les décisions. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez que je suis à mon compte, je suis professionnel. Donc, je me suis dit, Alex, ça me manquait, je suis menuisier. Et donc, ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup humainement, ça me manque beaucoup de faire du travail d'atelier, de concevoir des choses, partir de rien, pas aller sur les chantiers. Et donc, j'ai commencé à dire, Seigneur, maintenant, il faut que je fasse du travail d'atelier, mais il me faut des machines, il me faut ceci, il me faut cela. Et le Alexis cartésien, il a commencé à se mettre en route. Tac, 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 tac. Donc, si tu veux ça, eh bien, tu mets en place ton objectif, ta stratégie, touc, 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 touc. Et tout ça, je ne l'ai pas mis devant Dieu. D'accord? Vous me suivez? La plus grosse erreur que j'ai faite. Et puis, on a commencé, j'ai loué un entrepôt, c'est de l'argent, j'ai acheté une machine, c'est de l'argent, j'ai fait ça, c'est de l'argent. Et puis, finalement, tout tombe à l'eau, parce que ce n'était pas le temps de Dieu, et je m'en rends compte que maintenant. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour la leçon, parce que j'aurais pu aller encore plus loin et tomber encore de plus haut. Le Seigneur m'a dit, ce sera que ce que tu as dans ton cœur, c'est bon. C'est bon, mais ce n'est pas le moment. Alors attends, attends. Parce que la foi, c'est l'action, mais c'est aussi l'attente. La foi, c'est je pose un acte, mais c'est aussi quand Dieu me parle, j'attends. Et parfois, Dieu nous parle, et on a tellement de moyens dans notre société de dire, je fais les choses par moi-même, que tu dis, Seigneur, tu m'as confirmé dans mon cœur, je vais le faire. Ben Dieu, il veut aussi le faire avec toi, en fait. Il ne veut pas être mis de côté. Il ne veut pas juste être celui qui balance des paroles. Je te bénis, tu as une belle parole, tu es content, et puis je te laisse tranquille. Il veut être partie prenante dans tes projets. Et là, je me suis repenti il y a 2 semaines. J'ai dit, Chanel, encore une fois, c'est toi qui avais raison. Parce que les femmes, elles ont toujours raison. Toujours leur dire. Parce qu'elle, elle le sentait. Elle me disait, arrête de t'emballer, machin. Mais je dis, si, vous comprenez ça. Et ça, c'est une réalité que j'ai vécue là, il y a dans le mois, dans les 2 derniers mois là. Et donc, on peut, même si on a déjà eu des expériences avec Dieu dans certains domaines, au niveau de la foi, toutes ces choses, on peut quand même passer à côté. On peut quand même perdre un peu de temps, perdre de l'argent au passage, mais la grâce de Dieu demeure. Et je sais que quand on a cette possibilité de revenir à Dieu en disant, Seigneur, je te demande pardon, je t'ai mis de côté. C'est ce que j'ai fait moi pendant cette semaine. Toute cette semaine, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu voulais être partie prenante de ma vie. Et je t'ai mis de côté. Et là, j'ai ouvert des portes. Tu ouvres des portes à peut-être la convoitise, à avoir plus, gagner davantage. Et je dis, Seigneur, je referme toutes ces portes maintenant et tu reprends le contrôle de ma vie. Ça roule ? Est-ce que des gens, vous avez vécu ça dans la semaine, avoir pris des positions en disant, Seigneur, je désire que tu reprennes ce territoire dans ma vie que j'avais repris ? Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Je vous avais mon témoignage. Si quelqu'un a vécu ça, un petit signe. Parce que j'aimerais bien que vous témoigniez. Non? Eh bien, au moins, vous avez levé vos mains. Je ne vais pas vous obliger. Je ne vous oblige pas ce matin. Ah, Nadia, apparemment, tu es obligée, d'après Sandy. Voilà, donc, l'objectif, ce n'est pas de témoigner, mais c'est de voir que Dieu agit dans ces semaines-là. Ça va? La foi, les choses qu'on espère, est important d'espérer dans les choses de Dieu afin qu'il démontre sa puissance et pas ta capacité à bien faire les choses. Ça va, on est tous intelligents, on a tous les moyens de s'en sortir. Avec un peu de volonté, un peu de courage, ça va toujours. Alors, 1 Corinthiens, on va continuer, chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Foi, espérance, amour. D'accord ? On prend maintenant Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 17, pardon, Pierre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ça, encore quelque chose qu'on connaît très bien, mais qu'il faut toujours mettre en perspective dans nos vies, en se disant, est-ce que j'entends ma propre voix qui interprète tout, ou est-ce que j'entends vraiment la parole de Dieu pour moi, pour qu'en moi demeure cette foi, que cette foi produise l'espérance dans les choses que Dieu me donne, l'espérance de mon salut, l'espérance de la vie éternelle, et aussi provoque en moi cet amour où Dieu dit, si vous m'aimez, vous suivez quoi ? Mes commandements. Mes commandements, c'est quoi ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et puis quoi ? Eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tout ça, ça part de la foi. Si ta foi, elle est friable, si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, pas juste la parole qui est une parole écrite, mais la parole révélée pour ta vie, ce que Dieu a révélé à Sandy, peut-être que d'autres, vous le saviez déjà, mais Sandy a besoin que ce soit révélé maintenant. Ce que Dieu te révèle chaque dimanche, dans tes moments personnels, c'est personnel. Mais ce qui permet, à un moment donné, de faire croître ta foi, et Seigneur, ok, je vis cette espérance-là pour ma vie, et maintenant, je sais que toi, tu vas déverser en moi ton amour, qui va produire en moi un fruit éternel, et pas juste une compassion passagère, où j'ai envie d'aider quelqu'un parce que j'ai une petite compassion qui passe par là, et puis c'est tout. Vous voyez l'idée ? Donc, ça, c'est 1 Corinthiens 13. Alors, j'aimerais que... Elle n'est pas là, mince. Donc, il y a un truc qui s'est passé aussi, c'était par rapport à l'amour. On a parlé de l'amour. Ce verset qui nous dit « L'amour parfait bannit la crainte ». D'accord ? Tu te souviens, Josine ? On a prié pour ça le mardi matin de la semaine de jeûne. On a prié pourquoi, Josie ? Explique. De manière claire. Viens. Qu'est-ce que la crainte ? Alors, tu donnes des termes clés et ensuite, suite à ce qu'elle va dire, tu ne sais pas faire ça ? Je peux le faire, hein, mais comme tu étais là, je préfère te faire participer. Tu te souviens ? En gros, c'est elle qui avait reçu cette parole. Et je lui ai dit Josine, et puis j'ai demandé à Nathalie de mettre des termes très clés, vraiment clés. Et puis ensuite, on a pris. Vas-y.
Je vais donner un exemple, j'espère que ça va parler. En fait, c'est par rapport, il dit l'amour parfait bannit la crainte. Et ici, par exemple, on parle de la révélation de Dieu comme père. Et si on, par exemple, on ne croit pas que Dieu c'est notre papa, ça va être compliqué en fait de dire l'amour parfait bannit la crainte en fait. Donc en fait, c'est des choses un peu concrètes dans nos vies qu'on peut vivre tous les jours où on se dit Seigneur, je t'aime, mais on vit pas les choses en fait. Enfin, j'ai du mal à expliquer, mais je sais pas si.
On va travailler ça. Je reprends le micro. Je t'embête. Hein. Ah, on travaille ça, hein, de mettre des choses concrètes sur des concepts bibliques, mettre des choses concrètes. En gros, l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque tu as des craintes dans ton cœur, c'est parce que tu as des mensonges dans ton cœur. Si tu as des mensonges dans ton cœur, tu crois des choses qui ne sont pas vraies, tout en croyant Dieu, Satan a de la place, et qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vis pas dans ton plein potentiel. Donc, quels sont les mensonges ? Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez spirituel, je vais rater, je vais ceci, je vais cela. Mais ça, ce n'est pas du tout dans le territoire que Dieu a mis pour ta vie, en fait. Et toi, tu crois en ces choses-là, et puis ça ne va plus. Mais si vraiment tu accèdes à cet amour de Dieu en disant « Seigneur, tu m'aimes et je veux me voir comme toi, tu me vois. » Et bien là, ça chasse les craintes sur ta propre vie. Et lorsque les craintes commencent à tomber, tu vis comment? Ben, tu vis libre. Donc on a prié pour cette liberté, en fait. De dire, je pense ça dans mon fort intérieur, c'est dans ma tête. Mais ça peut même être des concepts spirituels. Ça peut être sur ta propre vie. Ça peut être sur ta famille. Peu importe. Et en fait, tu crois, mais pour toi, c'est une vérité. C'est ta vérité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu pour ta vie. Mais Christ, dans son amour, dit, moi, je veux te libérer, je t'ai sauvé, je t'ai mis le cadeau. Le cadeau, il est là et tu n'as plus besoin de vivre avec cette crainte. Et en fait, c'est tellement inconscient dans ta tête, c'est tellement dans tes habitudes de vivre comme ça que tu vis chrétien avec tes craintes. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Vous me suivez? Ce n'est pas possible pour Christ, toi, vivre dans la crainte. Et voulant vivre la plénitude de Christ qui vit en toi, ce n'est pas possible. Il suffit de lire les fruits de l'esprit et puis vous avez vite compris. Est-ce qu'on a tous des mensonges dans le cœur? On en a tous quelques-uns. Alors on va prier. Je ne vais pas demander de témoigner, ce n'est pas la peine. Ça, c'est des choses personnelles. Seigneur, je veux prier ce matin. On a une semaine de jeûne, de prière, où on s'est attendu à ta présence. Seigneur, on ne veut pas juste laisser passer cette semaine facilement, mais Seigneur, je déclare maintenant que ton amour est réel pour nos vies. Je déclare que tu nous as aimés le premier. Je déclare, Seigneur, que tu es venu à notre rencontre par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Je veux réaffirmer, alors là, vous commencez à réaffirmer dans votre cœur quand je dis ça. Je veux réaffirmer que je crois en Christ mort, ressuscité et qui me donne maintenant la plénitude d'une vie transformée. Seigneur, j'appelle la vie transformée. Seigneur, la vie transformée dans chacune des vies. Seigneur, on a tous cru en des mensonges divers et variés. Seigneur, qui nous pollue jour après jour. On ne s'en rend même plus compte. Ça devient nos compagnons de route, Seigneur. Et maintenant, ce matin, alors que je prie, Seigneur, alors qu'on t'a cherché cette semaine, Seigneur, tu parles à chaque cœur. Tu viens révéler les péchés, Seigneur, qui sont issus de mensonges dans nos vies. Pour qu'on puisse tout simplement remplacer ces mensonges par des vérités. Par des vérités qui sont les tiennes. Seigneur, tu es fidèle, tu es juste et tu pardonnes. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent être pardonnées. Seigneur, qu'elles ne sont pas dignes de venir devant toi parce qu'elles ont commis des choses qu'elles savent être mauvaises devant toi, mais pas possible de s'en échapper. Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes justifiés par la foi en toi, libérés de la condamnation de la mort, que nous sommes passés de la mort à la vie. Seigneur, nous proclamons ça dans nos cœurs, nous proclamons ça dans nos vies, Seigneur. Jésus, on ne veut pas jouer aux chrétiens, mais on veut être chrétien, totalement libre, libre. Amen. Amen. Ça va?
Ouais.
Alors, vous allez voir, on va avoir des témoignages la semaine prochaine. C'est la parole est vraie. Hein.
Amen.
Matthieu 26, versets 36 à 45. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? J'ai du mal ce matin. À lire. Ah, merci.
Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ?» Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit : Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs.
Voilà, donc c'est des moments forts dans la parole de Dieu. On voit souvent ces moments où Jésus, on peut se. Il devient un peu comme nous, quelque part. C'est plus le Jésus qui guérit tout le monde, qui délivre, mais c'est le Jésus humain, pleinement humain. Et là, on voit Jésus dans sa qualité d'homme qui fait face à une angoisse pas possible. Il sait ce qui va se passer. C'est ça qui est terrible. Vous savez, on aurait de quoi être angoissé si on nous déballait devant nous toute notre vie, tout ce qui est futur. Tous nos problèmes, toutes les épreuves qu'on va rencontrer. Je pense que si Dieu faisait ça, il disait « Alex, regarde ce qu'il y a devant toi. » Je pense que je m'enfuirais. Il y a de quoi être angoissé. La vie est dure. Elle n'est pas facile. Rien que respirer, c'est compliqué. Lever le bras, ça, vous voyez, au plus on vieillit, au plus c'est dur. Ça veut dire que, eh ben, quelque part, Jésus, il est là et lui, il a cette pleine connaissance de ce qui va se passer. Il sait que ça va être terrible pour lui. Il sait qu'il va être séparé de son père. Il sait qu'il va subir la souffrance atroce. Il sait que tous les péchés vont lui retomber dessus. Et là, il dit, il faut que j'aille vers mon père. Il faut que j'aille lui parler. Et là, il est pleinement humain. Seigneur, si tu veux, enlève ça devant moi. Enlève cette coupe. Je veux pas, cette coupe, c'est le poids du péché, vous voyez. Et puis, je veux pas vivre ça. Il est pleinement humain. Combien de fois on dit, Seigneur, je veux pas. Et puis il revient là et vous avez ce contraste avec les disciples. Ils ne comprennent rien du tout. Jésus a dit, venez avec moi. Eux ne savent pas ce qui va se passer. Et puis, eux qui dorment, ils ne sont pas angoissés. Eux. Peinard, on est avec Jésus, il va chasser les Romains, il est le Messie. Ils ne comprennent pas. Et cette question de l'angoisse de Christ qui vit pleinement en lui et de dire, mais quelque part, je veux faire passer ta volonté avant la mienne. Et ça, c'est une des réalités pour nous, par angoisse. Souvent, dans la foi, par peur de poser un acte de foi, par peur de l'inconnu, parce que nous, on ne le sait pas, eh ben on préfère faire les choses à notre manière. Et du coup, on voit cet exemple de Jésus qui dit « Non, je vais faire les choses et je vais supporter pour vous. » Et puis, c'est grâce à ça qu'on a le salut. Mais voyez cette capacité qu'a Jésus. Et trois fois, il vient et réveillez-vous. Réveillez-vous. Et quelque part, ça nous parle aujourd'hui « Réveille-toi, toi qui dors. » Réveille-toi, toi qui dors. Vous vous souvenez de cette histoire avec Paul qui prêche et il y en a un qui s'endort, il meurt. L'endormissement égale à la mort. L'endormissement spirituel, c'est la mort pour nous. Parce que quelque part, la foi, elle est plus nourrie, on devient charnel et ça finit ce verset-là. Jésus terminera en disant, en fait, eh bien, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire qu'il faut que tu pries pour ne pas tomber dans ton côté charnel. Toute ta vie, tu es avec ton corps de chair, mais si tu veux vivre spirituellement, eh bien, il faut que tu sois sur la brèche. On aime bien dire ça dans nos assemblées. Il faut que tu pries, il faut que tu cherches Dieu, il faut que tu sois à proximité de moi, il faut que tu aies ma révélation, il faut que tu connaisses mon cœur. Parce que quand tu connais mon cœur, tu es encouragé. Et là, le Père, il est là, mais il ne lui parle pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a une souffrance des deux côtés, mais ta volonté avant la mienne. Ça marche ? Alors, cette semaine, on a voulu vraiment vivre ces choses-là. Et on va remettre... on va essayer de chacun dans nos vies être davantage à l'écoute du Père, à la recherche de sa rencontre quotidiennement dans l'Église, dans les réunions de prière, d'avoir des temps vraiment de mise à part et de se dire, Seigneur, faire le point régulièrement, ok, Seigneur, je connais toutes ces choses de toi, mais je sais que la lettre peut tuer et je veux être quelqu'un d'esprit. Et être quelqu'un d'esprit, c'est entendre la voix du Père qui va susciter en moi la foi, une foi active. Ça roule ? Amen. Alors, on va... Je regarde si j'ai fait le tour un peu de tout ce qui avait été dit. Ouais. Alors, Josine, ce que tu as reçu ce matin, c'est le moment, s'il te plaît.
«
En fait, c'est dans la pensée que Fred il a partagée ce matin quand il parlait de personnes, enfin, qui leur passé en fait, qui sont peut-être dans le passé. Et c'est pendant le chant, je ne suis plus esclave de la peur. Et moi, c'est en fait ça, montrer une image de deux personnes qui avec des sacs à dos, en fait, je pense des gens qui font de la randonnée. Et je pense que quand on va en altitude, plus on est chargé, plus c'est compliqué d'aller en altitude en fait. Et donc il y a des personnes, je pense, vos sacs sont un peu trop chargés et Dieu veut que vous puissiez vraiment les décharger. On a une semaine de jeûne et c'est le moment peut-être de vraiment dire Seigneur, je veux vraiment lâcher et aller plus loin avec toi. Et la deuxième image, en fait, c'était par rapport à Lot, la femme de Lot, où le Seigneur leur avait dit de partir de Sodome, de Gomorre, et de ne pas se retourner. Et on a vu ce qui arrivait à la femme de Lot, c'est quand elle s'est retournée, elle s'est retrouvée en statut de sel. C'est parce qu'elle était un peu, on va dire, captive de son passé. Et je pense qu'il y a des personnes ce matin, quand Dieu il insiste sur quelque chose, c'est que vraiment, il veut t'emmener plus loin et recevez vraiment cette pensée en fait, s'il faut le déclarer, c'est Seigneur, je ne suis plus esclave de mon passé. On a chanté je ne suis plus esclave de la peur, mais tu peux chanter Seigneur, je ne suis plus esclave de mon passé, parce que la parole elle est puissante et c'est important des fois de proclamer les choses pour pouvoir les vivre. Amen.
Amen.